Deutsche Welle. Afrique 7 jours.
L'état de la presse en Centrafrique, il n'est pas meilleur que celui du pays. Ce sera notre thème aujourd'hui. Ensuite, et comme toujours, Afropresse ou l'Afrique à travers la presse allemande. Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Afrique 7 jours qui vous est proposée en solo par Marie-Ange Piron. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai, nous nous intéressons donc à la situation des journalistes en Centrafrique. Et malgré la prise de fonction de la présidente Catherine Samba-Panza il y a 3 mois et la présence de forces militaires étrangères, la situation reste extrêmement volatile. Dans ce contexte, il est difficile pour les journalistes d'exercer leur métier dans de bonnes conditions et, a fortiori, de pouvoir pleinement contribuer au rapprochement entre les communautés du pays. L'instabilité politique ne favorise pas un apaisement des relations entre gouvernement et médias. Delphine Schiltz.
Un mois environ après le renversement du président Bozizé en mars 2013, les journalistes centrafricains décident d'observer une journée sans médias pour protester contre les menaces, les pressions et les pillages qu'ils avaient subis. Un an plus tard, les dommages causés aux rédactions n'ont pas été réparés. Le manque de moyens et de protection sont les premières entraves à la liberté d'informer. Agualo Lassi est photographe à l'agence Centrafrique Presse.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des journalistes étrangers qui sont venus, ils sont bien protégés, ils ont les moyens et ils circulent, ils font leur travail convenablement. Si notre agence était dotée de tous ces moyens, cela nous permettait d'être sur le terrain. Et cela nous donne quand même confiance dans le travail.
Précarité économique contre indépendance de l'information. Pour les médias centrafricains, c'est l'un des grands enjeux de la crise. Les articles publiés récemment par Le Peuple et Le Palmarès sur Catherine Samba-Panza en témoignent. À ce sujet, on écoute la réaction du porte-parole du Haut Conseil de la communication, Jean-Paul Sankagi.
On dépasse carrément le cadre de la vie privée d'une personnalité, d'un chef d'État, disons que nos journalistes ont beaucoup à apprendre pour que la transition puisse bien se dérouler, parce que là, ils débordent un tout petit peu.
La formation des journalistes centrafricains a été un temps assurée par des organisations internationales, UNESCO, UNICEF, sans oublier les ONG. Mais depuis mars 2013, les humanitaires ont une marge de manœuvre limitée pour assister les journalistes sur place. Le témoignage de Narcisse Jobert, animateur de la radio communautaire de Bria.
Nous n'avons pas une aide d'un aide international ou que ce soit une ONG internationale, jamais du tout, rien que la communauté de Bria. C'est-à-dire auparavant, c'est l'UNICEF qui devrait venir prendre en charge notre radio.
Les subventions de l'État, quant à elles, sont gelées. Les professionnels qui travaillent dans de plus grosses structures reçoivent parfois quelques sous dans une enveloppe de la part de personnalités influentes, mais pas tous. C'est l'avis de Mathurin Momet, directeur de publication du Confident.
Tous les régimes qui se sont succédés veulent qu'on chante leur louange. Ils appuient d'une manière discriminatoire les journaux. Les petits journaux qui les soutiennent sont soutenus, mais ceux qui font d'une manière objective leur travail sont marginalisés.
Même s'ils reconnaissent les erreurs de leur père, les journalistes centrafricains ont mal vécu les arrestations de Régis Zoumiri et de Patrick Stéphane Akibata. Car en 2005, sous le régime de François Bozizé, des avancées législatives avaient été réalisées, avec notamment la loi relative à la liberté de la presse et la dépénalisation des délits de presse. Aujourd'hui, la tension entre médias et gouvernement favorise plutôt l'autocensure. Narcisse Jobert.
Comprenez une chose, qu'en République centrafricaine, si vous parlez de la politique dans une radio communautaire, on risque de mettre la main sur toi, alors que la radio communautaire de Bria a ses lignes. Il est là pour la sensibilisation, pour la paix et la réconciliation. Rien que ça.
La loi de 2005 prévoyait aussi la création du Haut Conseil de la communication pour la régulation. Comme on le sait, ce conseil n'est plus opérationnel, même si une commission travaille à sa remise en fonction. En attendant, les journalistes eux-mêmes s'organisent. Observatoire des médias centrafricains, Réseau des journalistes pour les droits de l'homme, Association des radios communautaires. En dépit des risques, les médias centrafricains veulent continuer de jouer un rôle fédérateur et pacificateur dans leur pays.
J'ajoute qu'un journaliste centrafricain, Désiré Sayenger, rédacteur au journal Le Démocrate, est mort dans la nuit de mardi à mercredi dernier après avoir été attaqué à son domicile par des individus armés. Le moment est venu maintenant de voir ce qui a retenu cette semaine l'intérêt de la presse allemande dans l'actualité africaine. Et nous commençons par l'Afrique du Sud qui, 20 ans après la fin de l'apartheid, s'apprête à voter. Ce sera le 7 mai. 2 millions de jeunes Sud-Africains, relève l'hebdomadaire Die Zeit, voteront pour la première fois. Ce sont ceux qu'on appelle en Afrique du Sud les « born free », ceux qui sont nés après 1994. Mais un tiers seulement d'entre eux, souligne le journal, s'est inscrit sur les listes électorales. La majorité de ces jeunes ne fera pas usage du droit de vote pour lequel leurs parents et grands-parents ont consenti d'immenses sacrifices. À la différence de leurs aînés, ils ne croient plus aux promesses de la démocratie. Mais le mécontentement ne concerne pas seulement les jeunes. Partout dans le pays, poursuit le journal, les signes d'insatisfaction sont visible. Il y a eu, depuis le début de cette année, 3000 manifestations en l'espace de 90 jours seulement. Les gens manifestent contre le manque d'eau, d'électricité, d'école. Ce sont des manifestations contre une administration inefficace et corrompue et elles s'accompagnent souvent d'explosions de violence. La Frankfurter Allgemeine Zeitung note que l'Afrique du Sud distribue de nouveau les ressources en fonction de la couleur de la peau. L'élection de Nelson Mandela il y a 20 ans a profondément changé le pays. Des citoyens noirs ont été volontairement privilégiés, mais, estime le journal, cela a produit un petit groupe de capitalistes improductifs. La politique de la discrimination positive est un système sans pareil qui a engendré tout un secteur économique. Mais le bilan, 20 ans après, n'est pas à la hauteur des attentes nourries initialement par de nombreux Sud-Africains. Seule une petite partie de la population en a profité. Le Soudan du Sud, avec son cortège de morts et de réfugiés, continue de préoccuper la presse allemande. Il fait écrire à la Süddeutsche Zeitung qu'aucune leçon n'a été tirée du Rwanda. Le plus jeune État du monde, grand comme la France, s'enfonce dans la peur parce que deux chefs politiques se disputent. La mission de l'ONU présente sur place est si faible qu'elle ne peut guère faire plus que de relever les traces des tueries. Non pas, poursuit le journal, que les casques bleus n'aient tiré aucun enseignement de leur honteux échec dans les années 1990, Srebrenica en 1995, le Rwanda en 1994. La force de l'ONU au Soudan du Sud est dotée d'un mandat qui autorise une interposition énergique entre les deux parties. Mais, aujourd'hui comme autrefois, tout dépend de la volonté des États de mettre à la disposition de cette force les soldats et le matériel nécessaire pour qu'elle puisse s'acquitter de son mandat. Et souligne encore le journal, depuis le Rwanda, les chefs d'État n'ont pas perdu leur capacité de hausser simplement les épaules quand on tue en Afrique. 6 morts à Slaviansk, en Ukraine, enflamment les esprits dans les capitales des pays industriels. 10 000 morts au Soudan du Sud laissent froid. Les casques bleus au Soudan du Sud attendent depuis maintenant 4 mois les renforts promis. Sur les traces du virus, titre le Tagesspiegel de Berlin dans sa rubrique scientifique. Le virus en question, c'est celui de la fièvre hémorragique Ebola qui continue de sévir en Guinée, même si les médias en parlent moins. Une équipe de l'Institut Robert Koch de Berlin, écrit le journal, vient de séjourner dans un village proche de Gekedou. C'est de là qu'est partie l'épidémie. Les chercheurs, une douzaine, ont été accueillis à bras ouverts. Pendant 3 semaines, ils ont passé au peigne fin les forêts du sud de la Guinée en 4 endroits différents. Ils ont capturé des chauves-souris, un animal qui passe pour un réservoir du virus sans tomber lui-même malade. Ils ont cherché des rongeurs et des primates morts qui auraient éventuellement succombé à une infection par Ebola. Ils ont aussi collecté des mouches bleues, car ces mouches, explique le chef de l'équipe de chercheurs allemands, trouvent toutes les charognes d'animaux. Et les chercheurs peuvent reconstituer leurs deux ou trois derniers repas à ces mouches. Avec un peu de chance, les mêmes mouches peuvent même livrer de l'ADN du virus. L'étude de tout ce matériel collecté sur place commence tout juste, mais précise le journal, rien ne dit que l'équipe allemande puisse déterminer l'origine du virus qui sévit en Guinée, car Ebola disparaît aussi rapidement qu'il apparaît quelque part. Près de 700 peines de mort d'un coup, la justice égyptienne ne fait pas dans le détail. Parmi les condamnés, le chef des frères musulmans, Mohamed Badi. La justice aurait elle-même sa place au banc des accusés, lit-on dans die Tageszeitung. Mais il serait trop simple de croire que les juges égyptiens reçoivent d'en haut un coup de fil qui leur dicte le jugement à prononcer. Sous Moubarak déjà, la dynamique était complexe. Le régime pouvait placer ses hommes au poste clé, comme celui de président de la Cour constitutionnelle ou de procureur général. Mais les juges ont régulièrement prononcé des jugements qui n'étaient pas du goût du régime. Il n'est pas rare que des acquittements ont été prononcés parce que les aveux avaient été arrachés sous la torture. Ce manque de fiabilité de la justice, poursuit le journal, est l'une des raisons pour lesquelles le régime Moubarak, soucieux d'obtenir les jugements souhaités, a étendu la juridiction militaire à de nombreuses affaires civiles. Sachez encore que la Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans sa rubrique économique, constate que les entreprises allemandes hésitent encore à investir en Afrique. Or, souligne le journal, des pays comme le Nigeria et le Maroc manifestent un très grand intérêt pour la technique allemande. Le même journal publie aussi un court article à l'occasion des 90 ans, le 28 avril, de l'ancien président zambien Kenneth Kaunda. Il voulait réaliser en Zambie l'humanisme socialiste. Ce fut un désastre économique, estime le journal. Terminé pour Afrique 7 jours. Merci de votre attention et bonne continuation à l'écoute du programme francophone de la Deutsche Welle.